Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, la vaccination contre le Covid va pouvoir commencer dans l'Union. En France, à compter du 27 décembre, la logistique est très importante. Comment s'organise la distribution? Nous verrons cela avec Lucas Archassal.
Et ce midi, zoom sur la situation dans le Grand Est, à l'heure où les vaccins arrivent, le rebond épidémique inquiète. L'invité de la rédaction sera le président du Conseil régional du Grand Est, Jean Rottner.
La droite et le Rassemblement national pointent du doigt un article jugé liberticide. Il proteste contre un passage du projet de loi sur les urgences sanitaires. Ils alertent sur une possible restriction de la liberté de déplacement qui pourrait être conditionnée à une vaccination. Explication de Rosalie Lafarge.
La pression monte pour Boris Johnson. La gestion de la pandémie par le Premier ministre britannique est très critiquée. De nombreux camions sont bloqués à Douvres. La découverte d'une nouvelle souche du Covid en Angleterre a provoqué l'isolement du Royaume-Uni.
BioNTech se dit capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus. Le laboratoire allemand l'a annoncé ce matin. Ce même labo est à l'origine de la découverte du premier vaccin avec les Américains de Pfizer. Nous rejoindrons notre correspondante à Berlin.
Et puis dans votre journal également, la valeur du Bitcoin augmente. Elle a même triplé en un an. La première crypto-monnaie décentralisée atteint désormais 23 000 $. Pourquoi? Vous entendrez un spécialiste, professeur de finance.
Alexei Navalny souffre d'un délire de la persécution, assure le Kremlin. L'opposant russe affirme avoir piégé au téléphone l'un des agents des services russes impliqués dans la tentative d'empoisonnement dont il se dit victime. Nous irons à Moscou. L'acheminement des doses sur les sites de vaccination peut commencer. Hier, l'Agence européenne des médicaments puis la Commission européenne ont autorisé le produit de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19. En France, la campagne va donc démarrer dimanche 27 décembre. Après plusieurs pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, entre autres, les doses, précieux produits, sont transportées sous très haute surveillance pour éviter les vols ou tout acte malveillant. Bonjour Lucas Archassal.
Bonjour.
Toute la chaîne de la santé est mobilisée.
Oui, pour commencer, Margot, rappelons qu'en France, ce sont les personnels soignants et les résidents des EHPAD qui seront les premiers vaccinés. Les agences régionales de santé coordonnent la distribution des vaccins et centralisent les demandes des hôpitaux et des EHPAD. 14 000 établissements au total qui font remonter le nombre de doses dont ils ont besoin. Rappelons au passage que la vaccination n'est pas obligatoire et que donc ces établissements doivent recenser les volontaires. Prenons l'exemple du CHU de Strasbourg. Il vient de recevoir un congélateur qui stocke à moins de 80 degrés Celsius les doses de vaccins pour le groupement hospitalier du territoire Nord-Alsace-Sud-Moselle. La pharmacie de l'hôpital s'occupera, elle, du transport des doses.
La logistique est donc organisée au millimètre près.
Et sous haute surveillance, comme pour les transports de fonds, la discrétion sera de mise, des itinéraires tenus secrets, dévoilés à la dernière minute. Interpol a prévenu hier, les risques sont nombreux, vol, malveillance, falsification. Et puis surtout, ces transports doivent se faire vite. Quand une dose de vaccin quitte la conservation à grand froid, le temps est compté, dit David Poitevin, directeur de la division vaccins chez Pfizer France, au micro de Hakim Kasmi. Il faut
utiliser un contenant thermique que nous avons spécialement conçu pour cette vaccination et qui nous permet de conserver jusqu'à 30 jours et de façon tout à fait autonome, avec une simple recharge en glace carbonique, notre vaccin. Et puis enfin, il y a la possibilité aussi de pouvoir conserver de manière classique, entre guillemets, entre 2 et 8 degrés, donc dans un réfrigérateur, de tout ce qui est plus classique, notre vaccin. Et dans ce cadre-là, nous pouvons le conserver jusqu'à 5 jours.
Olivier Véran a précisé ce matin en déplacement en Seine-et-Marne qu'il ne manque plus que l'aval de la Haute Autorité de Santé pour le démarrage de la campagne de vaccination en France. Elle devrait débuter dimanche prochain.
Lucas Archassal. Les vaccins sont donc très attendus alors que Santé publique France a recensé près de 5800 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ces dernières 24 heures. Plus de 350 morts. Un bilan en baisse comme souvent début de semaine car moins de tests sont réalisés le week-end. Le taux de positivité des personnes testée s'établit à 4,7% contre 5,2% la veille selon les autorités sanitaires. Le maire, Les Républicains de Reims, a proposé de reconfiner localement ou nationalement les habitants après Noël. Arnaud Robinet était ce matin l'invité de France Info.
Moi, je propose de reconfiner. Profitons de cette période de vacances scolaires, juste après Noël, jusqu'à la rentrée, pour reconfiner et en tout cas garantir une sécurité sanitaire d'ici la rentrée pour permettre un retour à la vie presque normale à la rentrée.
Arnaud Robinet, maire LR de Reims. Les chiffres sont préoccupants dans le Grand Est, région qui, au printemps, avait aussi beaucoup subi cette pandémie de Covid-19. La semaine dernière, le taux de reproduction du virus y était le plus important de toutes les régions de l'Hexagone. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président LR du Conseil régional du Grand Est, également médecin. Bonjour Jean Rotner.
Bonjour.
Et avec moi pour cette interview, Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question, Jean Rotner, est-ce que l'image d'Arnaud Robinet, maire de Reims, vous êtes inquiet de l'évolution de la situation sanitaire dans votre région ?
Je crois qu'Arnaud a raison d'être soucieux. Aujourd'hui, vous en avez parlé, le R0 ne fait que progresser. Je crois que ce matin, en tout cas, de manière générale, sur la région, il est à 1,18. La circulation du virus est bien là et certains départements sont plus touchés que d'autres. C'est vrai que il s'agit souvent des départements frontaliers qui ont bénéficié aussi d'allers-retours de personnes travaillant parfois en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse où l'épidémie est fortement présente. Donc oui, aujourd'hui, je crois qu'il faut être inquiet et surveiller les 15 prochains jours avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Une question de Stéphane Robert.
Est-ce qu'il est, de votre point de vue, nécessaire de reconfiner au lendemain du réveillon de Noël ?
C'est extrêmement compliqué. La décision ne m'appartient pas. Il est, je crois, ce qui m'appartient, c'est d'éveiller mes concitoyens à la vigilance, à utiliser effectivement toutes les armes aujourd'hui à notre disposition. Vous les connaissez par cœur, on a de cesse de les répéter depuis le mois de mars. La distanciation physique, limiter les rassemblements familiaux pour Noël, tout cela c'est absolument indispensable. Mais je pense que le réveil au mois de mars, d'après nos simulateurs, effectivement, risque d'être douloureux.
Oui, il y a l'exemple aux États-Unis et au Canada, avec à l'occasion de Thanksgiving début décembre, on a vu un rebond de la circulation du virus. Ça pourrait être la même chose juste après les fêtes chez nous.
Ça pourrait être le rebond pourrait effectivement exister. Les courbes et les prévisions tendent à le démontrer aujourd'hui. On se rend compte qu'à partir de tout début janvier, effectivement, le virus n'a de cesse de progresser et qu'il risque d'y avoir là aussi une augmentation, je ne parle pas encore de surcharge, mais en tout cas une augmentation des hospitalisations et des hospitalisations en réanimation. Et on sait très bien qu'à partir du moment où les gens se présentent à l'hôpital, à partir du moment où le taux de réanimation devient préoccupant, eh bien, il est déjà trop tard. On court déjà après la maladie. Donc, les précautions sont vraiment à prendre dans les jours qui arrivent dès aujourd'hui et tout particulièrement pendant les deux réveillons qui se profilent.
Comment vous expliquez ce rebond dans le Grand Est en particulier ? Je crois que vous avez mis en place un outil qui permet de prévoir l'évolution de l'épidémie, hein. Predict Est, c'est ça ?
Tout à fait. Quand je vous parle de cette prédiction, on a la possibilité aujourd'hui de voir à l'échelle d'un quartier dans les grandes villes ou d'une commune quelle est l'évolution de l'épidémie. On sait par exemple que dans les Vosges aujourd'hui, c'est entre Saint-Dié et Épinal, avec une propagation assez forte aussi du côté de Neuchâteau et du plateau des Vosges. On est en capacité de voir à la commune près aujourd'hui l'évolution plausible de la maladie dans les 15 jours, voire dans le mois qui vient. Donc c'est assez fin. Et c'est un bel outil qui permet de faire sortir finalement la donnée de santé pour être franchement une donnée de prédiction. Donc c'est efficace et aujourd'hui effectivement sur département par département, on va dire même à l'échelle de la commune, on est en capacité de dire l'évolution ou de prévoir l'évolution dans le mois qui vient.
Est-ce que vous avez le sentiment que la population en grande majorité a conscience du risque et respecte les restrictions imposées ?
Oui, à conscience du risque, c'est indéniable, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, clairement, sont usés, sont épuisés, aimeraient passer à autre chose. Et le propre de cette épidémie, c'est qu'on n'en connaît pas la ligne d'arrivée. Et donc, d'ici là, ça risque encore d'être très long. La vaccination, même si elle débute dans les jours prochains, ne va concerner qu'une partie limitée des Français. Et il faudra probablement attendre ce printemps, voire le début de l'été, pour voir les Français qu'ils souhaitent, en grande majorité, pouvoir être vaccinés en grand nombre. Donc ça va encore être extrêmement long. Et je crois que cette troisième vague d'épidémie, en fait, c'est simplement une poussée supplémentaire d'une même maladie, c'est ce qu'il faut se dire, va probablement nous concerner. Et effectivement, le Grand Est risque d'être potentiellement la région qui en sera victime la première.
Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière chez vous, dans cette région qui était très vite et très fortement exposée ?
Sur la première vague, on sait qu'il y a un facteur déclenchant extrêmement fort. Sur la deuxième vague, on a su absorber, avec le retour d'expérience de la première vague, l'épidémie. Il y a peut-être aussi des conditions climatiques, un froid peut-être un petit peu plus sec, un peu plus fort dans nos régions, qui est un facteur déclenchant supplémentaire. Aujourd'hui, c'est clairement décrit. Et je vous dis, ce caractère frontalier, avec une Allemagne aujourd'hui qui est plus atteinte que la France, avec un Luxembourg qui confine, avec une Suisse qui confine aussi, ce qui fait que les allers-retours de nos frontaliers peuvent être aussi des facteurs déclenchants évidents.
En tant que médecin de profession, vous connaissez bien le milieu hospitalier. Quel est le sentiment qui prédomine au sein des équipes soignantes ?
Aujourd'hui, en tout cas, chez moi, dans mon secteur, sur le sud de l'Alsace, qui a été particulièrement concerné, on était finalement l'épicentre français pendant de nombreuses semaines. Il y a encore une fatigue, il y a encore... je crois beaucoup de cicatrices également psychologiques qui existent, mais ce sont des équipes qui savent et qui ont été exemplaires. Moi, je leur tire vraiment le chapeau. Elles ont su, avant d'être entendues au niveau national, bien trouver les solutions en elles-mêmes, dans les centres hospitaliers. Les ressources, vous savez, elles sont venues du terrain. Elles ne sont pas venues forcément tout de suite d'en haut, même si on a été aidé à un moment donné. Mais ce sont les équipes elles-mêmes qui ont réussi à trouver les ressources, les solutions. Les hôpitaux se sont transformés très rapidement en hôpitaux Covid. Et aujourd'hui, je crois que la pause de Noël va leur faire du bien. La diminution des épidémies et de grippe et des épidémies infantiles fait que l'activité peut être moindre, mais elle est quand même soutenue. C'est toujours une période extrêmement difficile. Les services de médecine interne sont particulièrement sollicités. Donc, vigilance aussi, et je crois qu'il faut être extrêmement attentionné vis-à-vis de ces équipes.
En quelques mots, comment est-ce que vous jugez la gestion de la seconde vague épidémique dans votre région et plus globalement au niveau national ? Est-ce qu'on a appris de la première vague du printemps dernier ou bien est-ce qu'on navigue encore un peu à vue ?
Non, on a appris clairement, les autorités sanitaires ont appris de la première vague. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut peut-être aller plus fort encore dans les tests. J'ai inauguré hier une chaîne de production de tests salivaires dans notre région. Je regrette aujourd'hui que ça ne fasse pas partie de ces tests de masse. Vous n'allez pas dans nos universités, dans nos lycées, dans les lieux culturels, si jamais ils rouvrent, tester des gens avec de la PCR en leur grattant le fond de la gorge. C'est profondément désagréable et ça n'invite pas, en tout cas, les Français à se faire dépister. Et donc, le test salivaire est un test aujourd'hui qu'il faudrait largement développer. Moi, je milite pour cela. D'autre part, je considère que même si on a mieux traversé la deuxième phase, il y a aujourd'hui un épuisement des Français, un ras-le-bol des Français. Et la grande difficulté pour nous, c'est de ne plus réussir à faire respecter les consignes.
Merci.
Et donc là, il y a danger.
Merci Jean Rottner, président de la région Grand Est. Vous étiez l'invité de la rédaction de France Culture. Interview à réécouter d'ici quelques minutes sur notre site franceculture.fr. Celles et ceux qui ne se feront pas vacciner pourraient voir leur liberté se réduire. C'est ce que dénoncent le Rassemblement National et la droite. Ils alertent sur une possible restriction de la liberté de déplacement qui pourrait dans certains cas être conditionnée à une vaccination. Leur inquiétude vient d'un article dans le projet de loi qui vise à instituer un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. L'exécutif est-il en train d'instaurer une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom ? Le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait assuré qu'elle ne serait pas imposée, Rosalie Lafarge.
Avec ce texte, le Premier ministre peut par exemple subordonner l'accès aux moyens de transport à la présentation des résultats d'un test de dépistage ou à l'administration d'un vaccin. Et ça, c'est tout simplement hallucinant pour Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national.
C'est une espèce de dictature molle, c'est-à-dire que sous des prétextes sanitaires, de tous les côtés, on entame la liberté des Français. Il n'y aura peut-être pas d'obligation de se vacciner, mais en même temps, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez de votre vie et de vos allées et venues. C'est extrêmement inquiétant et ça ne correspond fondamentalement pas à la philosophie de la France.
Inquiet aussi Loïc Hervé, sénateur centriste.
C'est un sacré cadeau de Noël que le gouvernement nous fait là avant les fêtes.
Pour ce membre de la commission des lois du Sénat, la tournure de certaines phrases dont ce projet de loi fait pour sortir de l'état d'urgence sanitaire est franchement préoccupante.
On donne des moyens qui sont ceux d'un régime, oui, qui est proche d'un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'on permet aux forces de l'ordre par exemple, de contrôler l'état de santé des personnes, alors qu'on est en train de faire rentrer, puisque le texte parle de pérennité, hein, donc on est sur un régime, on va dire, de quasiment de droit commun, et donc les prérogatives données au Premier ministre sont très très larges.
Mais du côté de la majorité présidentielle, on balaie toute dérive autoritaire ou toute volonté de rendre la vaccination obligatoire sans le dire, le député En Marche Bruno Bonnell.
Il y a des fantasmes, si on voulait faire une vaccination obligatoire, nous l'avons déjà prouvé, dans ce quinquennat, on impose des vaccinations obligatoires. Donc arrêtons encore une fois de faire de complotisme, de bistrot, avec chaque soupçon qui pourrait être mis sur des intentions qui n'existent pas.
Au-delà de la forme et du rejet des accusations, certains au sein de la majorité reconnaissent tout de même que sur le fond, les mots ne sont peut-être pas toujours les bons. Mais ils soulignent que le texte n'en est qu'au tout début du processus législatif et ils appellent à ne pas préjuger de l'issue des débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont discuté hier soir de la nouvelle variante du Covid-19, soupçonnée d'être beaucoup plus contagieuse et qui inquiète particulièrement dans le sud-est de l'Angleterre. Un nouveau protocole sanitaire doit être rendu public aujourd'hui. Il permettra aux Français qui sont actuellement au Royaume-Uni de rentrer en France pour les fêtes de fin d'année. Paris pourrait instaurer un test PCR obligatoire. La France fait donc partie de ces pays qui ont décidé de suspendre les déplacements des personnes en provenance du sol britannique. Ceci afin de freiner la propagation de cette nouvelle souche du coronavirus. Les Britanniques sont presque coupés du monde. L'Organisation mondiale de la santé en Europe va se réunir pour réfléchir à une stratégie. Boris Johnson était déjà critiqué pour sa gestion de l'épidémie depuis le début de la crise sanitaire et sa décision jugée tardive par certains de reconfiner à moins d'une semaine de Noël n'a rien arrangé, Maxence Peignier.
La pression monte pour Boris Johnson alors que le Royaume-Uni s'impatiente de voir les frontières rouvrir avec le reste de l'Europe. 1500 camions sont toujours bloqués autour du port de Douvres dans l'attente de pouvoir gagner la France. Selon un syndicat, certains conducteurs sont cloîtrés à bord de leur véhicule depuis plus de 24 heures et n'ont reçu qu'une barre de céréales par personne de la part des autorités. De leur côté, les professionnels de la grande distribution craignent des pénuries de produits frais dans les jours qui viennent et de nombreux Britanniques tentent déjà de faire des réserves dans les supermarchés. Pour la plupart des entreprises, le risque est aussi de ne plus pouvoir préparer de stock en vue d'un potentiel no deal à la fin du mois. Le Premier ministre se serait bien passé de cette nouvelle crise. Il essuie déjà beaucoup de critiques sur le manque d'avancée dans les négociations du Brexit et sur sa gestion de la crise sanitaire en général. En attendant que Londres, Paris et Bruxelles s'accordent sur une reprise du trafic, les embouteillages s'aggravent. Dans les prochaines 48 heures, entre 4 et 5 000 camions sont attendus à l'entrée de l'Eurotunnel selon sa direction.
Et Boris Johnson a donc perdu beaucoup de crédit dans sa gestion de la crise sanitaire. C'était le billet politique de Frédéric Seyss et Richard Place ce matin à retrouver sur franceculture.fr, rubrique actualité. L'Allemagne aussi a décidé de fermer ses frontières avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud d'ailleurs. Berlin annonce ce matin qu'elle prolonge la fermeture des frontières jusqu'au 6 janvier au lieu du 31 décembre. Le laboratoire allemand BioNTech, qui est à l'origine du premier vaccin avec Pfizer contre le Covid-19, se veut aujourd'hui rassurant. Il affirme qu'il est capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus, Nathalie Versieux.
La protéine de la mutation du virus est identique à plus de 99% à la souche la plus répandue jusqu'à présent, rappelle le fondateur de BioNTech, Ugur Sahin. Le chercheur se veut donc rassurant, convaincu que son vaccin sera aussi efficace contre la mutation.
Pour l'instant, on ne voit pas de raison d'adapter le vaccin, mais il nous faut attendre les résultats qui viendront dans 2 semaines. Pour le moment, nous pensons qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Techniquement, nous pouvons concevoir un nouveau groupe de vaccins en 6 semaines, mais c'est vraiment une considération technique.
BioNTech veut produire 1,3 milliard de doses de vaccins avec son partenaire américain Pfizer d'ici la fin de 2021. Des discussions sont en cours pour activer de nouveaux sites de production avec de nouveaux partenariats afin d'augmenter encore la production. Reste à savoir si cet optimisme scientifique suffira à rassurer. Ce matin, le virologue Christian Drosten, qui fait référence en Allemagne dans la lutte contre la pandémie, met en garde contre la mutation et appelle à réduire au maximum les contacts sociaux.
Et le ministre de la Santé français, de son côté, n'a pas d'éléments qui laissent à penser que le fameux variant anglais circulerait en France. Olivier Véran a assuré ce matin que la situation était surveillée de près, notamment grâce à des séquençages génétiques réalisés chez des personnes positives. Mais sur les 500 derniers séquençages, les experts n'ont pas trouvé ce variant, selon le ministre. Le Congrès américain a approuvé hier un nouveau plan de soutien aux familles et aux entreprises américaines touchées par la pandémie. L'enveloppe contient près de 900 milliards de dollars. Il prend le relais d'un autre plan. Par exemple, certaines familles sous condition de revenus recevront des chèques, 600 dollars par adulte et par enfant. Les chômeurs toucheront des allocations supplémentaires. Midi 50, la suite de votre journal sur France Culture. C'est une information qui ne passe pas inaperçue malgré la crise sanitaire et l'actualité très chargée. Le Bitcoin a dépassé il y a quelques jours les 20 000 dollars. La première crypto-monnaie décentralisée atteint désormais 23 000 dollars. Sa valeur, hautement spéculative, a triplé en un an selon l'agence Bloomberg, dopée par un appétit des marchés pour le risque, mais pas seulement. Si le Bitcoin augmente, c'est que la crypto-monnaie est aussi vue comme un moyen de faire fructifier son épargne alors que les taux sont négatifs. Marie Viennot a joint Pierre Gruson, professeur de finance à l'école de commerce Kedge Bordeaux. Il explique les raisons conjoncturelles et structurelles qui expliquent cette hausse.
L'élément conjoncturel, c'est l'annonce qui a été faite que l'année prochaine, on pourrait utiliser les bitcoins pour payer via PayPal. Maintenant, dans les raisons qui sont plus structurelles, on a tous des questions sur tout cet argent magique qui a été déversé et créé par les États dans le but de digérer la crise de la Covid. Et il y a des opérateurs aujourd'hui qui se posent la question de la confiance qu'on peut avoir dans les monnaies classiques et qu'un arbitrage en faveur du Bitcoin permettrait de sauvegarder tout ou partie de son patrimoine. Et cette épargne actuellement peut arbitrer en faveur du Bitcoin puisque depuis 10 ans, nous sommes en univers de taux zéro. L'arbitrage ne serait pas aussi évident si les taux d'intérêt étaient à 10 ou 15%, où on aurait le choix à ce moment-là de dire soit je me positionne sur un compte courant en bitcoin et ça ne me rapporte zéro, soit je me positionne sur des produits financiers classiques, style pour les Français SICAV ou autres, qui rapporteraient 10 à 15%. Donc le bitcoin est une alternative qui entamerait le pouvoir des banques centrales. Ces crypto-monnaies ont un avenir, peut-être pas dans le cadre du bitcoin et autres Ethernet, etc., mais il y a certainement quelque chose à fouiller.
Et d'ailleurs, les banques centrales veulent formuler quelque chose prochainement.
Les grandes banques centrales ont dans leur carton des projets pour proposer une crypto-monnaie à leur tour. Ça fait à peu près 18 mois que la Banque Centrale Européenne travaille dessus, avec un i-euro qui serait une crypto-monnaie qui bénéficierait des avantages des crypto-monnaies et qui permettrait de concurrencer Bitcoin et autres.
L'armée malienne aurait commis des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité, estime la Commission internationale sur le Mali établie par l'ONU. Ces déclarations figurent dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité et que l'AFP a pu se procurer. Sans être la seule, l'armée malienne figure au premier rang des accusés de cette commission. Ce rapport couvre la période 2012-2018. Le Kremlin l'assure, Alexei Navalny souffre d'un délire de la persécution. Alexei Navalny affirme avoir piégé au téléphone l'un des agents des services russes impliqués dans sa tentative d'empoisonnement dont il affirme avoir été victime. Ce dernier juge que l'opposant ne doit son salut qu'à sa prise en charge par des urgentistes après que le pilote a opéré un atterrissage d'urgence à Omsk lors du vol reliant Omsk à Moscou à bord duquel se trouvait Alexei Navalny. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Cette conversation est tirée d'une vidéo dans laquelle Alexei Navalny discuterait avec l'un des agents impliqués dans la tentative d'empoisonnement dont il a été victime. L'opposant le présente comme Konstantin Koudratsiev, expert en armes chimiques, travaillant pour les services russes. Il précise aussi que toute expertise vocale confirmera l'identité de cet agent, mise en évidence par une enquête du site Bellingcat. Alexei Navalny s'est fait passer pour un assistant du secrétaire du Conseil de sécurité russe, qui avait besoin de son témoignage pour rédiger un rapport sur la tentative d'assassinat de l'opposant. D'abord hésitant, l'agent présumé finit par lui confier certains détails, à savoir que l'atterrissage d'urgence et la prise en charge de l'opposant sur le tarmac de l'aéroport d'Omsk lui ont probablement sauvé la vie, mais aussi que le poison aurait été placé dans ses sous-vêtements. Si ce piège téléphonique devait s'avérer digne de foi, il mettrait en difficulté la présidence russe. Jeudi dernier, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine avait reconnu qu'Alexei Navalny faisait l'objet d'une surveillance des services secrets, mais qu'en aucun cas il n'avait tenté de l'assassiner.
Jean-Didier Revoin. La carte de Météo France montre aujourd'hui un pays coupé en deux. Une bonne moitié nord sous la pluie et la grisaille, une moitié sud sous le soleil. Les températures, il ne devrait pas faire plus de 13 degrés à Strasbourg, Lille et Brest. 14 à Marseille, 15 à Limoges et Paris et 17 degrés à Biarritz. Midi 55, c'est la fin de ce journal préparé avec Nicolas Paumet.